7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, pour se parler chaque jour du nord au sud. Hier, c'était la cuisine de rue, avec nous toutes nos papilles en alerte, et aujourd'hui, c'est plutôt la galère des transports publics, bus collectifs, bus rapides ou escargots, tramway, métro. Les transports publics sont devenus en quelques années le mal des grandes villes. Les temps de trajet pour aller travailler ne cessent de s'allonger. Et au-delà de la résignation ou de l'exaspération quotidienne, il y a ce constat amer. Presque partout dans le monde, les pouvoirs publics n'ont pas assez investi dans les transports pour accompagner le développement des villes. Alors comment sortir de l'impasse? On va en discuter avec nos invités et comparer les continents, les pays. C'est toujours intéressant de comparer chez les voisins et les solutions politiques, bien sûr. Dans le studio des 7 milliards de voisins, j'ai le plaisir d'accueillir François Saglier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'Union des transports publics et ferroviaires. Vous avez effectué toute votre carrière à la RATP. La RATP, pour nos amis qui nous écoutent à l'autre bout du monde, c'est métro, bus et une partie des RER. Hein, c'est bien ça?
Absolument. Et les tramways.
Voilà. Et les tramways maintenant, effectivement, le nœud des transports en Île-de-France. Jean Laterrasse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en aménagement des transports à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous connaissez bien l'Europe de l'Est, la Russie, mais aussi la Chine, le Japon, vous nous en parlerez. Mehdadi Sahabana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant, économiste des transports dans un bureau d'études. Évidemment, on parlera de l'Afrique avec vous, vous y allez souvent. Et nous sommes également en liaison avec Julien Allaire à Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en liaison grâce à Radio France Lyon et vous êtes délégué général de l'association CODATU, qui est une association qui à la fois fait du partage de recherche d'informations sur les transports et sur les politiques de transport dans les pays en développement. Et puis vous nous parlerez d'ailleurs des transports dans les pays méditerranéens, en Asie du Sud-Est, des pays comme le Vietnam, le Laos, dont on parle rarement pour leur transport. Et quant à vous les voisins, évidemment, on attend vos témoignages. Le numéro de téléphone est inchangé. 33 1 84 22 71 71. Je vous livre quelques messages qui sont arrivés sur le fil Facebook. Eladj est à Bamako, au Mali. Il nous dit ici, le moyen de transport le plus populaire et accessible à tous, c'est le Sotrama, c'est-à-dire Société des Transports Maliens. Mais franchement, c'est du n'importe quoi, nous dit Eladj. La rapidité dépend du taux de remplissage et de l'humeur du conducteur. Si t'es pressé, il vaut mieux te débrouiller avec un taxi. Mais c'est un luxe, vous confirmez, Mehdadi?
Tout à fait. En fait, Sotrama, c'est plutôt des minibus qui fonctionnent de manière informelle. Ce fut la Société des Transports, mais ce n'est plus le cas.
Ouais.
Mais le nom est resté.
C'est ça, un nom, mais qui est devenu maintenant du transport informel, c'est tout dire justement d'une certaine déliquescence des transports dans certaines villes africaines. Ibrahim Anjamena au Tchad nous dit « Chez nous, on a les mototaxis, ce sont les seuls moyens de déplacement, mais l'État tente de les supprimer, alors on ne sait pas quoi faire. » C'est vrai qu'il y a eu des interdictions de mototaxis en 2010 à cause des accidents que ça causait. Hein. Et puis ensuite en 2013, là, pour le centre-ville de N'Djamena, pour des risques d'attentats, et l'usager dans tout ça, Mehdadi.
Beaucoup d'accidents surtout, des chutes régulières, et puis ça ne pardonne pas un accident en moto. Et 50% du trafic à N'Djamena, c'est des motos.
Ernst, qui est à Port-au-Prince, en Haïti, nous dit que chez lui, en Haïti, les transports en commun sont extrêmement mal organisés. Aux heures de pointe, il est très difficile de trouver un tap-tap, hein, les taxis collectifs haïtiens. Et quand l'occasion se présente, eh bien, il faut faire face à un trafic monstre. Donc, on a tendance à dire, nous dit Ernst, que d'un côté, il y a trop peu d'autobus pour le transport en commun. Et de l'autre, il y en a trop parce que ce sont eux qui créent des embouteillages énormes. Il faut dire que depuis le séisme à Port-au-Prince, la taille de la ville s'est tellement étalée que ça a doublé en étalement, donc on comprend du coup les problèmes de transport public. Un témoignage de Guy à Dakar nous dit « Ah, ici la population s'adapte aux moyens de transport qui convient à son portefeuille ». C'est ainsi que on a la prolifération des minibus qui s'est accentuée ces dernières années, bouchons interminables aux heures de pointe, forte pollution, parfois même on suffoque et à cela s'ajoutent les interminables pauses qui s'imposent sur notre trajet. Et pourtant, nous dit Guy, dans cette ambiance accablante, il y a la convivialité, les rencontres, la simplicité des personnes qu'on côtoie. C'est ça l'Afrique, beaucoup de chaleur, même dans l'adversité. Moi, je dirais que c'est un peu un point de vue de Toubab, diront certains voisins, mais tout le monde, bien sûr, a la parole pour parler des transports publics qui n'est pas concerné. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone pour nous téléphoner et nous faire part de vos galères dans les transports publics. Et en région parisienne, on dit quoi ?
C'est rare d'être assis du début à la fin.
Ça dépend des jours, ça dépend de l'heure à laquelle on le prend.
C'est souvent très chargé.
Vous faites combien d'heures de transport par jour ?
55 minutes à peu près. Allez, donc à peu près 2 heures par jour.
J'habite sur une autre région, je mets 1h30.
1 heure à peu près.
On doit avoir à peu près 45 minutes de transport.
Vous arrivez souvent en retard à cause des transports ?
Souvent un quart d'heure, 20 minutes de retard.
Bon, là aujourd'hui je suis un peu en retard par exemple.
Durant le temps de transport, vous vous occupez ?
Je joue à des jeux sur téléphone. Et sinon, je lis.
Musique, smartphone, des jeux.
Obligé de prendre les transports pour aller au travail ?
On pourrait prendre la voiture, mais c'est vrai qu'entre les embouteillages et puis et puis le coup de l'essence...
Je pourrais prendre la voiture, mais il y a encore plus de monde, je pense, sur la route, donc je prends les transports.
Je prenais ma voiture pour aller travailler, mais à cause des embouteillages, malheureusement, j'arrivais très régulièrement en retard.
On ne peut pas se garer, il faut partir très tôt pour éviter les embouteillages, et donc je préfère les transports en commun.
Vous avez pensé aux alternatives comme le vélo ou la trottinette ?
Pas pour venir de chez moi, c'est trop loin, mais de chez moi à la gare, oui, je le fais de temps en temps, ouais.
C'est pas pratique s'il pleut ou s'il fait froid ?
Non, parce que j'ai pas envie d'arriver en âge de travail.
7 milliards de voisins, c'est maintenant !
Il y a de la résignation dans ces témoignages d'usagers en région parisienne recueillis par Calidouci. François Saglier, les temps de trajet, la surpopulation, quelle est l'ampleur de la dégradation dans les transports publics ces dernières années ? On va évidemment parler beaucoup de la région parisienne parce que c'est quand même là le nœud.
C'est effectivement une situation assez critique parce qu'on a un trafic énorme, on a des réseaux qui sont saturés, que ce soit les lignes de la SNCF ou de la RATP, on a des trafics qui aujourd'hui sont très nettement supérieurs à ce que un fonctionnement normal de l'infrastructure peut supporter.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus rajouter de métro, plus rajouter de tramway, de bus, voilà, parce qu'ils sont déjà à touche-touche les uns derrière les autres, ou presque ?
On est aux intervalles minimum, on est à la capacité maximum aux heures de pointe, et aujourd'hui, on a un manque cruel d'infrastructure, c'est tout l'enjeu du Grand Paris.
Des RER vieillissants, en plus,
Oui, je crois que je pense pas que ce soit le phénomène le plus important. Je crois que on a un véritable problème de capacité et qui ne fait que se dégrader parce que les nouvelles infrastructures tardent à trouver leur financement. Et parallèlement, on voit le développement d'emplois, par exemple, dans la zone de la Défense, qui est complètement déconnecté de l'évolution des transports.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, depuis quelques années, on se rend compte, si on regarde la carte, que les habitants sont au nord et à l'est, et les emplois au sud et à l'ouest. Donc comment on a pu en arriver là ?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique réelle coordonnée entre les investissements en matière de bureaux, où là, c'est, je dirais, l'offre de... qui l'emporte on tient pas compte, si vous voulez, de la capacité des réseaux de transport, qu'ils soient d'ailleurs routiers ou transports en commun, lorsqu'on décide d'implanter une tour supplémentaire. Et à la Défense, en ce moment, on est en train de construire plusieurs tours qui vont amener des milliers d'emplois, alors que le réseau de transport ne verra une véritable augmentation de capacité que dans plusieurs années. Donc on va passer vraisemblablement des années un petit peu difficiles dans le secteur de la
France. Vous nous prévoyez le cauchemar, là, carrément. Enfin,
la situation,
c'est déjà très tendu.
La situation, malgré l'augmentation de capacité qu'on a pu réaliser sur la ligne A du RER, par exemple, avec des matériels à deux niveaux plus capacitaires, il va falloir attendre le Grand Paris pour retrouver
On dit beaucoup qu'en plus, là, pour la première fois, en gros, les financements sont au point mort à un moment crucial. C'est quand même assez inquiétant.
C'est effectivement la période de crise économique qu'on vit. On voit que les transports...
Et la population qui augmente malgré tout.
Les transports ne sont plus une priorité. On vient de vivre plusieurs événements assez dramatiques au point de vue financement des transports, que ce soit le problème de l'écotaxe, que ce soit l'augmentation de la TVA qui a réduit les ressources des réseaux de transport, et la menace qu'on a aujourd'hui sur le versement transport avec les nouvelles exonérations qui sont envisagées.
Jean Latéral, place, je m'adresse à vous puisque vous êtes chercheur et que vous connaissez bien l'international, est-ce qu'on a des pays comme ça ailleurs qui font semblant de découvrir l'ampleur des problèmes alors que tout ça est largement prévisible, hein ? On est sur des questions de démographie.
Oui, je crois que c'est une problématique à l'échelle planétaire. Si on regarde les chiffres de la croissance de la population urbaine, ils sont tout à fait saisissants. Selon les chiffres de l'ONU, on a passé en 2007 le cap des 50% de la population à l'échelle de la planète qui vivait dans les villes. Et dans les 30 années à venir, on va passer le cap des 2/3, des 75%. Donc il y a cette croissance urbaine très forte. Et c'est vrai que, à peu près dans tous les continents, alors je ne parle pas de l'Europe où la population urbaine est stabilisée à peu près, ou en Amérique du Nord également, mais dans les autres continents, nous avons des véritables explosions de la démographie urbaine. Et classiquement, on évoquait tout à l'heure le cas de Rio avant l'émission, on constate que le développement de l'urbanisation va beaucoup plus vite que le développement des transports. Et donc, on a un temps de retard pour différentes raisons, mais notamment parce que il n'y a pas, je dirais, dans la plupart des cas, cette planification de l'occupation des sols que M. Saguier vient d'évoquer. Puis, il n'y a pas non plus cette capacité, notamment en période de crise, d'anticiper sur les défis à venir.
Et quel temps perdu, hein, en même temps, si on fait les calculs. Bon, on a 10% des Français qui mettent plus de 45 minutes pour aller travailler, mais ça, c'est à l'échelle nationale, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de petites villes en France où le transport est moins problématique. En une année, les Français consacrent en moyenne une semaine pour se rendre sur le lieu de travail. Si on additionne, vu comme ça, non, mais oui, vous avez l'air pas tout à fait François Saglier. Mais... Oui, on peut le voir comme ça quand même.
C'est vrai, non, mais ça c'est surtout la région parisienne.
Oui, mais c'est surtout la région parisienne. Économiquement, c'est un temps passé, un temps perdu immense.
Oui, absolument. Oui.
Oui. Alors évidemment, à l'échelle du continent africain, on parlait de l'urbanisation. En 2030, un habitant sur deux en Afrique vivra en ville. Donc c'est pas fini du tout. Hein. La croissance urbaine en Afrique, ça ne fait que commencer.
Et c'est à vue d'œil. Dans la plupart des agglomérations millionnaires en Afrique, c'est 1 million de nouveaux habitants, de nouveaux citadins tous les 10 ans. Donc vous imaginez l'ampleur de la demande à satisfaire. Déjà, on a de gros problèmes. Imaginez dans 10 ans ce que ça va être dans la plupart de ces villes.
Et personne ne prend encore pour le moment le problème à bras-le-corps. Alors, il y a des villes comme Lagos qui ont commencé, on en parlera, une énorme métropole au Nigeria. Julien Allaire, vous qui travaillez dans cette association, le CODATU, vous connaissez le cas des pays méditerranéens. Il y a quand même des pays qui ont tenté d'améliorer leur système de transport public.
Oui, tout à fait, puisqu'en fait, le système de transport public est une solution aux autres problèmes de transport. C'est par rapport à l'introduction que vous avez faite à l'émission, je dirais que le transport public n'est pas le mal des grandes villes, c'est bien le transport, la mobilité qui est le mal des habitants des grandes villes, et le transport public est une solution dans beaucoup de villes. Comme il a été dit pour l'Île-de-France, ce qui est compliqué, c'est de mettre en place des politiques, de les coordonner avec les politiques d'urbanisme, de planification, etc. Et de trouver les moyens financiers. On en reparlera, j'imagine, dans l'émission, mais c'est une vraie difficulté pour tous les pays en développement.
On a l'impression que les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord. Or là, il n'y a pas vraiment quand même de question dogmatique. Hein. Tout le monde devrait avoir le même intérêt, non, Julien Allaire ?
En effet. Mais généralement, les agglomérations sont structurées administrativement d'une manière différente de celle que les habitants créent par leur mode de vie. Et donc, les frontières administratives de la commune, par exemple, si on prend l'exemple de Tunis, typiquement, c'est une ville qui est structurée, qui s'étale sur 4 gouvernorats différents. Il n'y a aucune structure qui gouverne réellement le développement urbain de Tunis. De fait, chacun cherche à développer son territoire sans aucune cohésion politique et sans aucune cohérence finalement. Donc le transport essaye de courir derrière tout ça, que ce soit le transport routier et le transport public. La difficulté, c'est que plus on développe la route, moins on permet aux autres modes de transport d'offrir une accessibilité.
Et les habitants disent, écoutez, on veut bien lâcher la voiture, mais proposez-nous quelque chose. Ça devient le cas maintenant en Île-de-France.
Alors pour les pays développés, c'est le cas, mais pour les pays en développement, il y a un attrait réel pour les modes de transports privés, que ce soit la voiture ou la moto. Et notamment, le système d'Hanoï était basé sur la moto. Le taux de motorisation à Hanoï est à peu près le même que celui au des villes françaises en auto. Et très clairement, il y a une envie d'avoir une voiture. C'est un enjeu social, de reconnaissance sociale. Et l'offre de transport est souvent déficitaire. Et souvent, les conditions de la qualité de service, le confort, donnent envie à chacun d'avoir son mode de transport. Ouais.
Alors, évidemment, ceci dit, les usagers sont quand même assez pragmatiques. Il n'y a pas que la reconnaissance sociale. Le jour où on a vraiment un système de transport qui fonctionne, on prend le meilleur quand même. Vous nous appelez, les voisins, les voisines, pour témoigner de vos galères de transport public, où que vous soyez dans le monde, au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh ben tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins. Entre nous, là, entre les voisins.
7 milliards de voisins ?
Oui.
C'est maintenant.
7 milliards.
7 milliards de voisins, on parle des transports publics aujourd'hui, 33 1 84 22 71 71. Aboubakar, bonjour, vous êtes à Niamey, au Niger. Soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel.
Vous souhaitez nous parler des difficultés dans les transports, hein, chez vous.
Oui, il y a beaucoup de difficultés ici au Niger. Surtout les transports publics est pratiqué par les minibus, les bus, les taxis. Les taxis moto appelés communément Kabou Kabou et les taxis bus. D'une part, le bus et le minibus permettent de faire des économies. Mais à chaque fois, le jour, à chaque fois, le matin et le soir, on passait plus de 30 à 40 minutes en train d'attendre à un arrêt sans abri sous le soleil ou sous la pluie. Il y a aussi des surcharges, des bousculades et il y a aussi le non-respect du code. La route.
Sur les bus, Aboubakar, je voudrais mieux comprendre, vous, votre problème, je ne sais pas où vous habitez, si vous habitez un petit peu en périphérie de la ville, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait surtout un problème de bus. Il y a des bus aux heures de pointe le matin et le soir, il y a un peu deux périodes de circulation des bus, et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ?
Oui, il y a, donc souvent, on passait plus de 30 à 40 minutes en train d'attendre. Le bus. Il y a aussi les retards, les bousculades et les embouteillages.
Pourquoi il n'y a pas plus de bus ? Est-ce que ce sont des questions qui sont soulevées auprès de la ville de Niamey quand vous attendez un bus 40 minutes ? Clairement, là, il pourrait y avoir d'autres bus qui se succèdent.
Oui, ils viennent toujours en retard. Ils viennent toujours en retard, les autres bus.
Maïdadi Sabana, vous souhaitez commenter le témoignage à Niamey. C'est une ville qui augmente. Hein, c'est de loin pas la ville la plus surpeuplée. Mais quelle situation on est au Niger à l'heure actuelle ?
Niamey est plutôt dans la taille critique. On atteint le million d'habitants. On va arriver très vite aux 2 millions d'ici 10-15 ans. Alors, la difficulté principale dans les villes d'Afrique, ce qu'il faut voir derrière le retard, c'est le coût. Il faut savoir qu'en Afrique, le transport public, c'est le coût le plus élevé. Un usager des transports publics dépense à peu près 10% du PIB par habitant en transport public. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter, alors qu'en France, on est plutôt de l'ordre de 1% du revenu par habitant en moyenne. Donc relativement, c'est très élevé. Et derrière ces contraintes monétaires, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que l'opérateur n'a pas les moyens d'avoir des véhicules de qualité pour pouvoir proposer son service. Et ensuite, il y a toute une stratégie de l'usager pour réduire ce coût-là. Ça veut dire qu'il va attendre, il va négocier. Tout ça, ça génère des pertes de temps qui font que, on met plus d'une heure pour se rendre à son travail.
Il n'y a pas une stratégie pensée de transport un peu industrialisée pour que cela aille vite. Vous dites qu'effectivement, en Afrique, les transports sont jugés et sont très chers. Si on regarde la dépense des ménages, mais ceci dit, en Île-de-France, ils sont aussi jugés trop chers. Ils sont jugés trop chers, je disais bien, Monsieur Saglier. payé par 88% des usagers. Donc voilà, on n'est jamais satisfait. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On va essayer de voir aussi quels sont les pays qui déploient des solutions innovantes en deuxième partie d'émission. Et bien sûr, je rends l'antenne pour le flash. On se retrouve dans 3 minutes. Surtout, restez avec nous. On parle des transports publics. C'est la journée des transports publics aujourd'hui en France. C'est la semaine de la mobilité européenne. Pour les transports publics, à tout de suite dans 3 minutes.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, consacré au transport public aujourd'hui, engorgement, inconfort, prix élevé. C'est un sujet à la fois qui implique la technique et la politique. Et il existe néanmoins des pays où les pouvoirs publics ont pris le problème à bras-le-corps. On va en parler. Il y a des exemples intéressants sur le continent sud-américain. Ce ne sont pas les pays les plus riches qui ont parfois les solutions les plus innovantes. C'est intéressant. Et vous nous appelez bien sûr les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71 où que vous soyez dans le monde. Juste peut-être quelques précisions supplémentaires. On parlait du prix des transports pour les usagers, bien sûr, parce qu'il n'y a que ça qui intéresse les citoyens, vous le savez. Que ce soit en Afrique ou sur d'autres continents. En Île-de-France, il faut bien préciser, François Saglier, que le prix d'un ticket de métro, de bus ou de RER ne représente pas le coût réel du trajet.
Absolument, c'est pas vrai qu'en Île-de-France, c'est vrai dans toute la France. L'usager du transport ne paye en moyenne en France que 30% du coût réel. Alors, on a un système en France qui est très favorable, c'est le versement transport, qui est donc la contribution des entreprises au financement des transports, qui a conduit aussi à cette baisse des tarifs. Et donc, le coût du transport en France n'est pas cher quand on compare par rapport à d'autres pays, qu'ils soient européens ou même à travers le monde. Le transport en France n'est pas cher. Et il ne cesse de baisser. Il est intéressant de voir que par rapport aux autres...
Il ne cesse de baisser depuis quoi? Ces 15 dernières années?
Depuis 15 ans, par exemple, le prix du transport sur un indice 100, il y a 15 ans, aujourd'hui, il est à 98.
L'usager, lui, il a vu les prix augmenter quand il achète sa carte.
Oui, mais si on tient compte du développement des abonnements et des tarifs sociaux, globalement en moyenne, le prix du transport a baissé. Alors que dans le même temps, le prix des autres services publics, que ce soit l'électricité, l'eau, les ordures ménagères, a augmenté de plus de 50%. Donc on a un problème de financement aujourd'hui des transports publics.
C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. On n'a pas mis assez à contribution les usagers.
Absolument.
Par rapport à d'autres pays, notamment des pays où les gens sont plus pauvres, ont plus de problèmes économiques.
Oui, si vous me permettez, là, je voudrais quand même intervenir, parce que pour comprendre ce qui se passe en France, sur le plan, disons, de l'utilisation du revenu des ménages, il ne faut pas seulement regarder le budget des transports. Il faut aussi regarder le budget qui est consacré au logement. Et ce qui se passe en France quand on compare par rapport à d'autres pays européens, c'est vrai que le transport est plutôt moins cher, mais le logement est beaucoup plus cher. Et donc les marges de manœuvre pour augmenter le prix des transports sont de ce fait assez limitées. Et si vous voulez, si on élargit le regard, je crois que quand on regarde un pays comme l'Allemagne, le logement est 2 à 3 fois moins cher. Donc là, on a davantage de marge pour réajuster le prix des transports à sa véritable valeur. Et donc, ça renvoie à un autre problème, qui est celui qu'on évoquait précédemment, qui est celui de la maîtrise de l'occupation des sols. En France, on a, on va dire, fait un effort particulier sur le prix des transports, parce que par ailleurs, il n'y a aucune régulation pratiquement du marché du logement. Et là, vous savez que c'est un sujet actuellement d'actualité, qui fait pas mal de débats. Mais je crois qu'il faut aussi avoir cette réflexion, si on veut traiter la question de la vie quotidienne des citoyens, et pas seulement regarder le prix des transports.
Oui, la bourse des ménages, évidemment,
n'est pas extensible.
Vous nous appelez, les voisins, au 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin qui est à Kinshasa, une ville bien peuplée en République démocratique du Congo. Bonjour Mohamedou. Mohamedou, nous entendez-vous? Êtes-vous en ligne avec nous? Vous avez appelé le standard et vous souhaitez...
Oui,
Mohamedou, vous avez 27 ans, vous êtes étudiant et vous prenez les transports en commun à Kinshasa pour vous rendre sur le campus universitaire?
Effectivement. Donc, moi, par exemple, je préfère prendre le car de transport commun, que nous appelons ici tête de mort, pour me rendre au campus.
Pourquoi ça s'appelle comme ça?
Avec mes deux... Bon, c'est parce que ce sont ces cars de transport qui sont à l'origine de multiples accidents, quoi. Mmh. Ici à Kinshasa.
Malgré les embouteillages, il y a des excès de vitesse, j'imagine. Malgré les embouteillages.
Oui, et ils roulent à une vitesse vraiment exorbitante, quoi. Je débourse environ 200 francs congolais et je suis à destination.
Ça fait à peu près 17 centimes d'euros, hein.
Oui, 200 francs congolais. Et contrairement à d'autres moyens de transport où je débourse plus d'argent pour faire la même distance, tels que les mototaxis où j'utilise 500 à 1000 francs congolais.
Mais aujourd'hui à Kinshasa, vous avez le sentiment qu'il y a quand même suffisamment de bus ou c'est un sujet de plainte ou pas pour les habitants autour de vous, Mohamedou ?
Bon, quand on essaye de faire la proportionnalité en ce qui concerne le nombre d'habitants, on se rend compte que c'est insuffisant. Pourtant, il y a les bus. Il y a les bus, mais c'est insuffisant. Et bon, les bus urbains et taxis, je débourse environ 500 francs pour me rendre à l'école. Donc vous voyez, du coup, pour moi, il est préférable de prendre ces transports communs qui têtent de mort.
Oui.
Moi, c'est vrai que c'est pas agréable, c'est pas du tout agréable de prendre ces cartes de transport.
Mais c'est moins cher, ça reste moins cher, oui. Alors que contrairement à d'autres pays du continent, Madadi Sahabana, il y a des pays où les mototaxis reviennent moins cher que, c'est-à-dire le transport complètement informel et tout reviennent moins cher que les bus.
Alors précisons une chose, c'est que même les bus sont informels en Afrique. Il y a quasiment plus de système de transport organisé dit vraiment public. C'est-à-dire il y a un retrait.
En Côte d'Ivoire, il n'y a plus encore s'il y a
encore. Il y a la SOTRA. Qui existe, mais qui est soutenu à bout de bras par l'État et qui ne fait à peine que 20% de la part de marché. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ce secteur des transports urbains est complètement abandonné par les pouvoirs publics en Afrique. Pour vous donner une idée, dans une ville moyenne qui fait à peu près une grande agglomération moyenne d'Afrique, on va dire 2 millions d'habitants, on a à peu près 1 million de déplacements en motorisés par jour. Et comparons-nous par rapport au transport aérien. C'est 100 000 voyageurs par an. Or, les pouvoirs publics préfèrent capitaliser des compagnies aériennes avec des dizaines de milliards et qui font faillite régulièrement. Et il y a un abandon total. Aucun investissement n'est fait dans le secteur des transports urbains, qui est pourtant à la base de toutes les activités urbaines, sachant que les villes représentent 80% des PIB des pays.
Vous voulez nous dire qu'en fait les villes font un très mauvais calcul, que les élus, que les politiques font un très mauvais calcul en abandonnant totalement ce secteur, que ça pourrait à terme participer à
tout
la création
fait.
De richesses,
mais
même
la compétition...
si bien sûr ça demande des investissements quand même au départ. Hein.
On parlait d'abord tout à l'heure. Oui, mais on parlait tout à l'heure de la défense et de la compétitivité d'une ville. Pourquoi est-ce qu'une entreprise viendrait s'implanter à Kinshasa, sachant qu'il faudrait à ses employés 2 heures pour venir au travail, débourser 20% de leurs revenus. Et puis ensuite, n'oubliez pas qu'une chose, le transport, c'est aussi à la base de tout le système de redistribution et de livraison. Ça génère aussi des surcoûts au niveau de l'approvisionnement des marchés et du surcoût des produits d'alimentation. Donc c'est un enjeu qui est complètement abandonné. Je vais peut-être être un peu vulgaire, mais aujourd'hui, les politiques africains considèrent le transport urbain pas très sexy et préfèrent dépenser des milliards pour des compagnies aériennes qui font faillite régulièrement.
J'apporterai
Julien Allaire, oui, à Lyon.
Un complément, parce que si on regarde le continent dans son ensemble, l'Afrique anglophone commence à mettre en place des politiques de transport urbain et ont pris de l'avance par rapport aux pays francophones. Que ce soit à Dar es Salaam, à Addis Abeba ou en
Lagos.
Afrique du Sud, à Lagos également, il y a vraiment une prise en main de ces questions politiquement pour essayer d'offrir un système de transport qui permette aux gens de se déplacer à moindre coût et dans des conditions de confort acceptables.
Alors justement, est-ce qu'on pourrait parler des échanges, puisque vous tous, vous faites des comparaisons internationales tout le temps, est-ce qu'on peut parler de l'aspect positif de ces échanges d'un pays à l'autre, de ces transferts de compétences? Par exemple, il y a les fameux bus rapide transit qui sont nés, je crois, en Colombie, à Bogota, la Colombie, qui est un pays...
Au Brésil.
C'est né au Brésil, mais ça a été très vite mis en place aussi à Bogota. Et c'est testé à l'heure actuelle. Enfin, c'est plus que testé, je crois qu'il y a quelques lignes déjà à Lagos au Nigeria. Qu'est-ce qui fonctionne quand on peut transférer comme ça des idées, Julien Allaire ?
En fait, d'une manière générale, on voit que le transfert de savoir-faire passe par des expériences qui sont valorisées. Et c'est vrai que l'expérience à Curitiba au Brésil, puis à Bogota du Transmilenio, s'est répandue à travers le monde. Et on a des systèmes de BRT qui se développent partout.
Le fonctionnement d'un BRT, c'est quoi pour les gens qui nous écoutent là? Qu'est-ce que ça a de révolutionnaire, le bus rapide transit?
C'est le fait de fournir une infrastructure dédiée à un système de bus.
Oui, en termes plus simples.
Pardon. En fait, on ne met pas les bus dans les bouchons. Très simplement, le bus...
Ils ont des couloirs
qu'on ne
peut pas franchir avec des petits murets, c'est ça.
Totalement infranchissables. Et moins ils sont franchissables, plus on peut faire passer de passagers en bus.
Ouais. Et c'est des couloirs réservés, infranchissables, complètement privilégiés pour ces bus qui se succèdent à un rythme extrêmement rapide. Hein, ils sont collés les uns derrière les autres, pratiquement.
Le cadencement est une question aussi tout à fait
essentielle. C'est l'usinage de transport.
Voilà, parce que quand vous avez un bus toutes les 5 minutes, par exemple, vous allez être beaucoup plus incité à faire un trajet de marche à pied relativement important, parce que vous savez qu'une fois arrivé à l'arrêt de bus, vous n'attendrez pas beaucoup. Alors que si c'est un bus tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes, bah là, vous êtes beaucoup plus dissuadé, parce que vous avez le risque d'attendre le bus de manière beaucoup plus importante. Et donc, le cadencement est essentiel.
Et qu'est-ce qui fait le succès des mototaxis aujourd'hui en Afrique? C'est justement ces embouteillages. C'est-à-dire aujourd'hui, tout à l'heure, notre interlocuteur de Kinshasa disait que les mototaxis sont plus chers que les bus. Et effectivement, il a raison. Le mototaxi devient de plus en plus le transport le plus compétitif en termes de temps de trajet.
Donc, ils en profitent,
et donc il devient le plus cher. Si vous voulez aller plus vite, vous prenez une mototaxi. Oui. Il y a plein de personnes maintenant en costume cravate qui prennent des mototaxis pour aller vite à leur rendez-vous dans les villes africaines.
Mais alors, c'est un problème qu'on rencontre également en région Île-de-France où le nombre de motos en circulation ne cesse d'augmenter. Mais de manière corrélative, le nombre d'accidents aussi augmente.
Alors, quand on voit l'augmentation des deux roues dans une ville comme Paris et ses banlieues, on peut se demander, c'est finalement là, ce sont les petits médicaments du Sud qui sont arrivés dans une grande ville du Nord, non? On voyait ça en Asie et maintenant on est dans la même situation, François Saglier?
Quand les réseaux sont saturés, il faut bien trouver des solutions alternatives. Quand je dis les réseaux sont saturés, c'est le réseau transport en commun, mais le réseau routier aussi est saturé. Mm-hmm. D'où le développement des deux roues.
En termes de sécurité, c'est pas du tout satisfaisant.
Oui, mais je crois que le raisonnement individuel ne tient pas compte.
Oui, mais quand on en arrive à ne plus poser la question de la sécurité dans une ville du Nord où justement au départ on pouvait se déplacer en toute sécurité, ça devient quand même inquiétant.
Non. Oui, c'est significatif.
Alors, oui, mais ce qui compte, c'est que je puisse aller à mon travail. Dans un pays du Nord, on n'était pas acculé à ça jusque-là.
À la fois aller au travail et le faire dans des délais qui sont très courts, parce que quand vous prenez la moto plutôt que prendre la voiture, vous allez trois fois plus vite en moyenne. Et donc, effectivement, ça incite.
Oui. Mais ça n'a pas l'air de vous scandaliser, Jean Saglier.
Si, non, mais tout à fait, c'est totalement scandalisant. Mais...
On s'est sudifié complètement là-dessus.
Oui, alors l'enjeu, en Île-de-France, l'enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Grand Paris, c'est la construction de 200 km de métro automatique pour résoudre une fois pour toutes, j'espère, ces problèmes de saturation. La difficulté, c'est que l'infrastructure, ça coûte cher, c'est 35 milliards d'euros, et qu'aujourd'hui, on a un petit peu de mal à trouver les financements pour réaliser cette infrastructure.
On ne les a pas du tout, pour parler clairement.
Non, on ne peut pas dire qu'on ne les a pas du tout. On a un début de financement. Il y a des incertitudes sur
la
suite. Mais
les transports dans le Grand Paris, ça va être quoi concrètement pour les usagers, ça sera quoi?
Ce sont de nouvelles lignes de métro. C'est le prolongement de la ligne 14, par exemple, au nord qui a commencé. Et ensuite, ce sont des lignes de rocade qui vont permettre d'éviter que les banlieusards qui doivent se rendre dans une autre banlieue soient obligés de passer par Paris, ce qui est aujourd'hui le cas et qui surcharge énormément les lignes. Donc c'est avoir un réseau
trajet
beaucoup plus maillé.
Le trajet de banlieue à banlieue est le plus problématique
aujourd'hui. Le trajet de banlieue à banlieue est un vrai problème.
Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 84 22 71 71. On accueille Abdou qui est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour Abdou.
Oui, bonjour Emmanuel.
On vous écoute Abdou, vous avez 24 ans, vous êtes étudiant d'ailleurs vous aussi.
Oui, effectivement, je suis étudiant à l'université de Ouagadougou. Et bon, en matière de transport commun à Ouagadougou, au Burkina Faso de façon générale, et on peut dire qu'ils sont quasi inexistants. Hein. Et bon, quand on prend les deux grandes villes, il n'existe que bon, peut-être dans les deux grandes villes comme Ouaga et Bobo. Et dans ce sens aussi, bon, les bus ne sont pas suffisants.
Voilà.
En particulier pour les étudiants d'ailleurs, hein, je dis ça parce que quand vous êtes étudiant, ça c'est toujours une vraie source de conflits politiques et la bombe étudiante est toujours prête à exploser, soit pour des questions de restauration universitaire, soit pour des questions de bus en général.
Bon, effectivement, bon, et on a nos problèmes spécifiques aussi, et donc, comme il y a les surcharges, les trams, et puis bon, les bus sont en retard à tout moment, et puis on est obligé souvent de chercher nos cours à partir de 19h45 ou 20h pour pouvoir aller avoir le dernier bus, alors que le cours finit à 21h.
Ah donc, oui.
Du coup, bon, on est
dans vous êtes pénalisé dans vos études et les transports ne suivent pas l'organisation du campus universitaire. Merci Abdou. Je voudrais qu'on prenne un auditeur qui nous appelle de Nairobi au Kenya. Jude, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Ouais, vous voulez témoigner Jude parce que vous vivez là à l'heure actuelle au Kenya, mais vous avez voyagé dans pas mal de pays. Vous voulez témoigner un peu de ce que vous avez observé dans les transports publics. Hein.
Oui,
alors je sais pas où vous êtes, si vous êtes dans un bus ou sur une moto, mais il faut couper. À mon avis, vous avez mis le kit main libre. Alors reprenez le téléphone tout simplement comme on fait d'habitude. Mettez le téléphone à votre oreille et parlez-nous.
Vous m'entendez mieux là?
Oui, là on vous entend très bien. Allez-y, Jude.
Ok, très bien. Alors je voulais témoigner sur la situation de bouteillage à Nairobi. Effectivement, les transports publics n'étant pas très efficaces, les gens, la population à Nairobi, la classe moyenne, se résigne à acheter des voitures privées. Et cela crée des embouteillages énormes. On perd entre 2, 3 heures ou 4 heures dans les embouteillages par jour. C'est intenable.
Ah oui.
Oui, c'est affreux. Hein. Et tout par le temps de pluie. C'est pratiquement 4 heures dans les embouteillages. Comparé à d'autres pays en Afrique, j'ai entendu un auditeur qui était de Niamey, en fait, bon, il n'y a pas, la situation n'est pas si catastrophique, bien qu'il n'y a pas de moyens de transport public. Mais effectivement, si je compare ça par la RDC, où c'est vraiment un risque, les transports publics inexistants, très risqué en fait, il faut quand même faire quelque chose par rapport à là.
Oui, mais vous, Julien Allaire, un de nos invités, disait que l'Afrique anglophone avait quand même pris le problème davantage à bras-le-corps par rapport à l'Afrique francophone. Est-ce que à Nairobi, vous dites qu'il y a quand même des tentatives pour augmenter le débit des transports publics ou pas du tout?
En fait, c'est plutôt... le gouvernement ne fait pas d'efforts, à mon avis, pour résoudre le problème de transport public. Donc, il faut que ce soit un problème qui est géré par au niveau national, au lieu de laisser les gens acheter des voitures privées. Parce que si les statistiques récentes démontrent qu'il y a 125 nouvelles voitures qui entrent sur la route de Nairobi tous les jours, mais les routes restent les mêmes, plus de voitures, les mêmes routes, égale embouteillage.
Ouais, laisser les gens acheter des voitures privées, je ne sais pas très bien comment on peut faire autrement. Qui veut réagir là-dessus? Merci pour ce témoignage, hein, Jude. Bonne journée à Nairobi. Oui, Maïda Dissa Abana.
Alors, il y a un projet BRT à Nairobi.
Donc, bus rapide transit.
Voilà,
donc,
tout à fait. Donc, ça met du
venu
temps
donc
à
d'Amérique latine
fait,
et qui a projet. Déjà fait escale à Lagos, qui s'est installé. La fameuse solution des bus rapide transit, d'ailleurs, en Europe, c'est une solution envisageable. Ça existe dans quelle ville?
À Nantes, à Paris, on commence à voir, on les appelle pas BRT, on les appelle BHNS.
On peut dire que le
bus à haut niveau de service.
Mais le tramway, d'une certaine façon, est une forme de bus rapide transit.
Je dirais qu'au point de vue infrastructure, on peut dire que c'est pareil, c'est isolé. Mais au lieu de faire rouler un tramway qui a une grande capacité, on fait circuler des bus. Ça coûte moins cher. Et ça répond à des besoins pour lesquels le tramway serait surdimensionné en termes d'investissement.
Sauf que les BRT colombiens ont une capacité de transport supérieure au tramway.
Pourquoi?
Donc ils ont perfectionné, ils ont fait des systèmes à double voie, le Transmilenio à Bogota par exemple. C'est deux voies, des lignes express qui se doublent des bus, ce que vous n'avez jamais dans les tramways, avec une vitesse en plus de circulation rapide et des bus biarticulés de plus grande capacité. Donc vous avez vraiment des systèmes moins coûteux, mais qui transportent plus.
Alors c'est peut-être moins coûteux en investissement, après il faut regarder les coûts de fonctionnement, parce que plus vous avez de bus, plus vous avez de coûts de main d'œuvre. Alors, selon le coût de la main-d'œuvre dans les différents pays, après, il faut arbitrer entre les différentes infrastructures.
Ouais. On essaie de voir un peu l'avenir, de voir quelles seraient les solutions les plus innovantes. On n'a pas encore parlé d'ailleurs de la Russie, d'autres pays d'Asie. Vous nous appelez, si vous le souhaitez, au 33-1-84-22-71-71. On parle des transports publics aujourd'hui, chez 7 milliards de voisins.
estoy apaciguado, cuando estoy desconfiado, cuando tengo mucho, cuando estoy quebrado, cuando me siento solo y cuando estoy enamorado. Mis tripas se mueven y siento el poder, como el poder de la gente que se empieza a entender. Aquí me siento vivo y me pongo de pie, pa' eso vine, pa' vivir el poder. Tengo un camino con mi destino y vivo mirando donde piso. Vivo contento de sentir el poder, porque aquí, 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 aquí me siento vivo. Vivo, vivo, aquí me siento vivo. Vivo, vivo, aquí me siento vivo. Cuando me dan la mano, cuando pienso en mis hermanos, cuando tengo frío o estoy sancochado, cuando soy una bandera, cuando soy marea y la corriente me lleva, cuando estoy contento, cuando estoy abierto, cuando siento un vacío por dentro. Vivo sonriéndole a la gente, pa' eso vine, pa' sentirme diferente, empapado con el sudor de mi frente, acompañado del parche caliente, caliente. Vivo contento y siento el poder, porque aquí, 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 aquí me siento vivo. Vivo, vivo, aquí me siento vivo. Vivo, vivo, aquí me siento vivo. Vivo, vivo, aquí me siento vivo.
Un groupe colombien qui chante Vivo. Justement, on parlait de la Colombie très en pointe. On n'a pas encore parlé pour la Colombie d'ailleurs des fameux téléphériques, hein, métro câblés qui ont essaimé dans plusieurs villes du continent sud-américain, notamment au Brésil, notamment à La Paz, et également, alors juste pour redonner très rapidement le principe, ce sont des téléphériques comme dans les stations de ski qui peuvent pas transporter beaucoup de monde, mais pour des villes avec un relief très accidenté qui permettent de descendre très vite en centre-ville pour les populations les plus éloignées, qui sont notamment dans des bidonvilles en haut des montagnes. Aujourd'hui, les uns et les autres, je vous pose la question, quels sont les pays ou les solutions qui vous semblent les plus prometteuses, les plus exportables? Vous souhaitez revenir sur le métro câblé ou sur d'autres choses? Alors, je pose peut-être la question à Jean Laterrasse, chercheur.
Écoutez, moi, je pense que les innovations qu'il faut attendre, alors sur le plan technique, on a toute une panoplie qu'on peut mobiliser. On en a évoqué quelques-unes des éléments essentiels. Mais il me semble que l'innovation majeure, c'est quand même un problème de financement. Et là, la question, c'est pas tant forcément de mobiliser beaucoup plus de financement que de mobiliser des financements dans la durée avec des politiques publiques qui soient régulières et qui permettent une prise en compte, on va dire, prospective des transports. Et cette question, je trouve qu'elle a été résolue de manière intéressante au Japon. Alors là, ce sont souvent des opérateurs privés, d'ailleurs, qui interviennent dans le domaine du transport, mais c'est pas tellement le sujet. Le vrai sujet, c'est que quand une ville se développe, elle crée des rentes, elle crée des rentes foncières. Et au Japon, ces opérateurs privés sont aussi des aménageurs, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de récupérer une partie de la rente foncière pour financer les infrastructures. Et ça, je crois que sous différentes formes, c'est un exemple qui doit nous inspirer, parce que c'est un problème majeur que celui du financement.
Julien Allaire, très rapidement.
Moi, de la même manière, la question financière est évidemment importante. En Colombie, pour le développer le BRT de Bogota, c'est une taxe sur le carburant qui a été développée.
Donc tout le monde paye.
Tout le monde
tous
paye.
Tous ceux qui achètent de l'essence.
Tous ceux qui sont coincés dans les embouteillages payent pour avoir une alternative en transport public, finalement.
Oui, évidemment, ça peut faire changer d'avis.
Ça peut faire changer d'avis, mais il faut accepter de mettre en place un système redistributif, et c'est pas forcément évident dans les pays en développement.
François Saglier, oui.
Et pardon, mais ensuite j'apporterai juste un éclairage chinois, parce que la Chine, les villes chinoises se sont développées très rapidement durant ces 20 dernières années, ont développé des réseaux de transport collectif par centaines de kilomètres pour le métro à Shanghai ou à Pékin, et Pékin est coincé là dans une pollution de l'air qu'il n'arrive plus à résoudre, dans des embouteillages qui durent plusieurs heures, comme c'était évoqué pour Nairobi.
Alors comment vont-ils se sortir de ce piège-là ?
eh bien, ils sont contraints à limiter le nombre de voitures qui arrivent tous les jours sur les routes, et ils ont mis en place un système de mise aux enchères des plaques d'immatriculation de véhicules.
Ouais. Enfin, ça, et c'est pas une politique de transport public.
Eh bien, c'est complémentaire, parce que le transport public est l'armature d'une politique de mobilité plus générale qui laisse la place aux piétons, aux cycles, et qui réduit l'usage privatif de la voiture, particulièrement les voitures, ouais, les voitures où
cycles,
on est seul
vu
dedans.
La taille des villes chinoises maintenant, je pense que ça, on ne pourra plus revenir en arrière. François Saglier.
Eh bien, détrompez-vous, puisque avec le vélo électrique, finalement, la part modale à Shanghai n'a pas beaucoup évolué pour le vélo depuis les années, début des années 90. Donc, il y a des innovations, et généralement, moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'entre le Nord et le Sud, il y a des innovations qui sont convergentes. Et que les systèmes de mobilité dans les villes européennes servent de modèle par rapport à beaucoup de villes dans le reste du monde.
Et inversement.
Et inversement.
On peut s'inspirer du Sud. Je suis désolée, on arrive vraiment au terme de cette émission. Oui, François Saglier.
Je partage tout à fait ce qui a été dit sur l'innovation en matière de financement. Je crois que le véritable enjeu, il est là, c'est dégager les ressources. Et il faut aller chercher les ressources.
Faire payer un peu tout le monde, oui, il faut de la persuasion.
Je crois que les autres modes de transport, et notamment la voiture, ne payent pas tout ce qu'elles coûtent.
Maïla Dissahabana.
La solution est institutionnelle et politique. Il faut que quelqu'un s'occupe des transports urbains, comme c'est fait à Lagos ou dans les villes.
Un petit message pour les politiques en Afrique qui peut-être nous écoutent. On ne sait jamais, on peut rêver.
Tout à fait. Le transport urbain, ce n'est pas sexy, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour la réalisation des activités économiques.
Et ça serait le meilleur moyen d'aller chercher des voix, finalement.
Tout à fait.
Mais encore faudrait-il que les citoyens fassent passer le message aux politiques. Merci à vous tous. Merci à vous, les voisins, pour vos témoignages. Derrière ce micro, il y avait Cécile Lavolo, bien évidemment, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solars, Didier Cherouz. Pour toutes vos réactions, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins. Sujet éducation comme chaque vendredi. L'enseignement catholique en question. Dans de nombreux pays, il représente l'excellence et l'élitisme scolaire. Une mère d'élèves en France vient de publier un véritable brûlot. « J'ai mis mon fils chez les cathos. » Pas tendre comme témoignage. On en parlera, elle sera dans le studio. Et bien sûr, vous nous appelez. Dites-nous chez vous, les voisins, quelles sont les valeurs de l'enseignement catholique, satisfait ou déçu. Un seul numéro, 33 1 84 22 71 71. À demain.